إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission la lecture de sourate Al-Kahf avec l'explication et la traduction en langue française. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Donc du verset 45 au verset numéro 53 de Sourat Al-Kahf. Dans le verset 45, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: propose-leur la parabole de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel et grâce à laquelle s'entremêlent différentes plantes qui se transforment en une herbe desséchée que les vents dispersent. La puissance d'Allah est sur toute chose sans limite. Dans le verset 46, les richesses et les enfants sont la parure éphémère de la vie d'ici-bas. où les richesses et les garçons sont la parure éphémère de la vie d'ici-bas, tandis que les œuvres pieuses, dont le bien perdure, procurent auprès de ton Seigneur la meilleure récompense et suscitent la meilleure espérance. Dans Sourate Al-Kahf, dans le verset 45 et 46, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, puis à ceux qui le suivent, de donner en exemple de ce bas monde aux hommes, afin qu'ils se l'imaginent tel qu'il est réellement et qu'ils connaissent aussi bien son aspect intérieur qu'extérieur, et qu'ils comparent entre cette demeure éphémère et la demeure éternelle et voient qui des deux est digne d'être choisi. Ce bas monde est pareil à une pluie qui tombe sur la terre, qui se mélange à la végétation en donnant toutes sortes de pluies et de fruits. Et tandis que cette vue qu'il offre réjouit les yeux et les subjugue, voilà que ce jardin subit l'assaut des vents et se transforme en chaume. Les belles plantes et les agréables fleurs qui égayaient les yeux s'abîment, et la terre devient comme de la chaume qui n'attire aucun regard et n'égaye aucun cœur. Il en est ainsi de ce bas monde. En effet, tandis que l'homme, qui est subjugué par ses attraits, se laisse griser par sa jeunesse, obtient certains de ses plaisirs, y accumule l'argent, les euros, les dollars, l'or, et s'enfonce dans ses délices et ses passions en toutes circonstances, en croyant que cela va durer pour toujours, voilà qu'il est atteint par la mort ou la disparition de ses biens. Sa joie le quitte alors, ses plaisirs disparaissent et son cœur se trouve en proie à l'amertume. Il quittera sa jeunesse, sa force et ses biens et ne gardera plus que ses mauvaises œuvres. Dès lors, l'injuste se mordra les doigts une fois qu'il saura la réalité de la situation dans laquelle il se trouve. Il souhaitera retourner sur terre, non pas pour terminer ce qu'il a laissé comme plaisir, mais pour récupérer ce qu'il a négligé comme œuvre par le repentir et les bonnes actions. Ainsi donc, le sage, qui est perspicace, est censé réfléchir. Il est censé bien réfléchir à cette situation dans laquelle il est. Et il se dit, suppose que tu vas mourir. Car il est certain que tu vas mourir un jour ou l'autre. Laquelle des deux situations vas-tu choisir? Être trompé par les faux attraits de ce bas monde, comme le font les animaux, ou œuvrer pour une demeure dont les délices sont éternels et qui contient tout ce qui réjouit les âmes et égaye les yeux? Grâce à cela, on peut distinguer la guidance de l'homme ou son égarement, sa réussite ou son échec. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les biens et les enfants sont la parure de ce bas monde, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de cela, et que tout ce qui reste à l'homme et qui lui est utile et le réjouit sont les bonnes œuvres, qui englobent tous les actes d'adoration obligatoires et surérogatoires, comme les droits d'Allah, les droits des êtres vivants, entre autres la prière, la zakat, les aumônes, le pèlerinage, la umra, l'évocation de la louange d'Allah, des glorifications d'Allah, les exaltations d'Allah, la lecture du Coran avec méditation, la quête de la science utile, sa mise en pratique, le fait d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, le fait de préserver les liens de parenté, de respecter ses parents, l'acquittement des droits des épouses et des enfants, la compassion pour les animaux, ainsi que pour l'ensemble des créatures, en bref, toutes les formes de bien. Ce sont là les œuvres qui restent
et dont la rétribution perdure auprès d'Allah et elle s'accroît même. Ce sont là donc les œuvres dont on espère la récompense, la bienfaisance et l'utilité en ce bas monde. En cas de besoin, quand on en aura besoin. Telle est la situation pour laquelle les hommes doivent rivaliser et entrer en compétition. Remarquez comment, après avoir donné un exemple de ce bas monde, de sa situation réelle et de sa disparition, Allahu tabaraka wa ta'ala dit que ce qu'il contient est de deux genres. Un genre de parure dont on jouit quelque peu avant qu'il ne disparaisse sans laisser aucun avantage à l'individu, loin s'en faut, puisqu'il lui porte parfois préjudice. Il s'agit des biens et des enfants. Un autre genre qui reste et dont l'utilité est éternelle pour l'individu, il s'agit des belles œuvres qui restent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans le verset 47, 48 et 49, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: mentionne le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et où on verra la terre totalement aplanie. Nous rassemblerons les hommes sans en omettre aucun. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur et on leur dira: par Allah, vous voilà venus à nous tels que nous vous avons créés la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne fixerions pas de rendez-vous. On déposera le registre des actes de chacun dans sa main et on verra ceux qui se rendaient coupables de mécréance, effrayés par son contenu, dire: malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché mineur ou majeur sans le mentionner. Tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé. Ton Seigneur ne lèse personne. Allahu tabaraka wa ta'ala parle ici de l'avènement du jour de la résurrection et ce qu'il contient comme affre, affliction et perplexité, en disant le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement, c'est-à-dire qu'il les déplace de leurs emplacements, les transforme en dunes, puis en flocons de laine cardée, avant qu'elles ne disparaissent et se dissipent. La terre sera aplanie, sans contenir de tortuosité ou d'accident. Allah, Azza wa Jal, rassemblera alors toutes les créatures sur cette terre sans en excepter aucun. Bien plus, aussi bien les premiers que les derniers, ceux qui se trouvaient dans les profondeurs de la terre, qu'au fond des mers, seront tous rassemblés. Ils seront ressuscités après avoir été réduits en poussière et rassemblés en rang devant leur Seigneur afin d'y être jugés selon son jugement équitable qui ne souffre d'aucun tort ou injustice. Il leur dira: vous voilà revenus à nous tel que nous vous avons créé la première fois, c'est-à-dire sans bien, sans argent, ni famille, ni proche, ni ami. Ils n'auront avec eux que leurs œuvres. Que leurs œuvres qu'ils auront accomplies et ce qu'ils auront accompli comme bien et mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ. Dans le sens: vous voilà donc revenus à nous, un par un, tel que nous vous avons créé pour la première fois, ayant abandonné derrière vous tout ce que nous vous avons octroyé. Mais nous ne voyons plus avec vous les intercesseurs auxquels vous prétendiez être associés. Il dit ici, en s'adressant aux négateurs de la résurrection, qu'ils verront de leurs propres yeux: pourtant, vous prétendiez que jamais ce rendez-vous n'aurait lieu. C'est-à-dire, que vous avez nié la rétribution des œuvres, la promesse d'Allah et sa menace. Or, vous venez de les voir et de les goûter. Dès lors seront présentés les registres dans lesquels les nobles anges ont inscrit les actes des hommes. Les cœurs seront affligés de les voir et les âmes seront envahies par la perplexité et l'anxiété. Les criminels en seront effrayés une fois qu'ils auront vu leurs œuvres exposées devant leurs yeux. Leurs paroles et leurs actes seront portés à leur compte et ils s'écrieront « Malheur à nous ! Malheur à nous ! Qu'a donc ce registre à nos maîtres ni petit péché ni grand péché sans le porter à notre compte » C'est-à-dire qu'il ne laisse aucune faute, grave ou légère, sans qu'elle ne soit inscrite et gardée, sans omettre d'actes cachés ou apparents, accomplis le jour ou la nuit. Et c'est ainsi qu'ils se retrouveront en présence de toutes leurs œuvres, sans pouvoir les nier, car ton Seigneur ne fait jamais de tort et d'injustice à personne. Ils seront alors rétribués pour leurs œuvres, et ils reconnaîtront cela. Ils seront désavoués, et mériteront le châtiment en raison de ce qu'ils auront fait, car ton Seigneur ne fait jamais de tort à personne et ils ne seront pas en dehors de sa justice et de sa bienfaisance. Puis dans le verset 50, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, mentionne, lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui était au nombre des djinns et qui se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Le prendrez-vous, ainsi que sa descendance, pour mettre en dehors de moi, alors qu'ils sont pour vous des ennemis? Quel détestable échange font là les transgresseurs. Allah Ta'ala parle de l'animosité de Satan, d'Iblis, pour Adam et sa descendance. Car lorsqu'Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, par respect et ennoblissement et par soumission à l'ordre d'Allah, ils se prosternèrent tous à l'exception d'Iblis, qui était du nombre des djinns. Effectivement, Iblis est un djinn qui vivait parmi les anges, ce n'est pas un ange, qui refusa d'obéir à l'ordre de son Seigneur. Et il dit, « Vais-je me prosterner devant un être que tu as créé à partir de l'argile ?» Il lui dit dans un autre verset dans le sens, « Je suis meilleur que lui. » Il montra ainsi son animosité envers Allah, envers votre Père et envers vous. C'est-à-dire envers Allah, envers notre Père à tous, Adam, et envers nous, les êtres humains, les enfants de Adam. Comment alors ? Pouvez-vous le prendre ainsi que sa descendance comme allié et protecteur en dehors d'Allah, alors qu'ils sont vos ennemis mortels? Quel détestable échange pour les injustes! Quel mauvais choix ils ont fait pour eux-mêmes en optant pour la recherche de la protection de Satan, qui n'ordonne que les turpitudes et les choses blâmables, au lieu de la protection du miséricordieux subhanahu wa ta'ala, dont tout le bonheur, tout le salut et toute la félicité se trouvent dans sa protection. Il y a dans ce verset une incitation à considérer Satan, Iblis, comme un ennemi en citant la cause impliquant cela et en disant que seuls les injustes peuvent faire cela, c'est-à-dire le prendre comme maître et allié. Quelle injustice est pire, en effet, que de prendre son vrai ennemi pour un protecteur en laissant le vrai protecteur digne des louanges. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dans le sens, Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière, alors que les mécréants ont pour protecteur les démons qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens de l'enfer qui y resteront éternellement. Allah tabaraka ta'ala a dit aussi, إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. Ils ont pris les démons comme protecteurs en dehors d'Allah. Puis dans le verset 51 et 52, Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: Je n'ai pas fait assister les démons à la création des cieux et de la terre, ni à leur propre création. Je n'ai pas pris pour soutien ceux qui égarent. Mentionne le jour où Allah dira: Appelez ce que vous prétendiez être mes associés. Ils les appelleront, mais ils ne leur répondront pas, car nous aurons placé entre eux un obstacle infranchissable. Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le sens qu'il n'a pas pris comme témoins les démons et ses égarés lors de la création des cieux et de la terre, ni lors de leur propre création à eux. C'est-à-dire qu'il ne les a pas fait assister à cette création, ni ne leur a demandé leur avis. Comment, dès lors, peuvent-ils avoir une part dans cette création? Bien au contraire, le seul créateur qui dispose des choses, qui possède la sagesse et détermine les choses est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses qui dispose d'elles avec sa sagesse. Comment peut-on alors lui attribuer des associés parmi les démons en les adorant et en recherchant leur protection, tout comme on adore Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils n'ont rien créé et n'ont même pas assisté à la création ou aidé Allah dans cette création à plus forte raison? C'est pour cela qu'il a dit dans le sens: car je n'ai jamais fait appel au concours des corrupteurs, c'est-à-dire pour l'assister dans n'importe quelle chose, car il ne s'y est pas et il ne convient pas à Allah de leur donner une part du pouvoir de disposition, car ils œuvrent pour séduire et égarer les hommes et pour manifester de l'animosité à leur Seigneur. Il est tout naturel qu'il les en a exclus et ne les rapproche pas de lui. Après avoir mentionné l'état de ceux qui ont associé dans ce bas monde, en réfutant cette associatrie et ce polythéisme de la façon la plus catégorique, en traitant ceux qui se sont rendus coupables de cette associatrie d'ignorants et de sots, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne leur situation avec leurs idoles le jour de la résurrection, lorsqu'il leur dira dans le sens: appelez à votre secours ceux que vous prétendiez être mes associés. C'est-à-dire, selon vos fausses prétentions, car à vrai dire, Allah n'a aucun associé sur terre ou dans les cieux. Si tel est le cas comme vous le prétendez, appelez-les pour vous secourir et vous sauver des affres de ce jour. Et ils les invoqueront, mais ils ne recevront d'eux aucune réponse, car ce jour-là, l'ordre et le pouvoir appartiendront à Allah seul et à personne d'autre. Et personne ne possédera le poids d'un atome d'utilité pour soi-même ou pour autrui. Car entre les uns et les autres, c'est-à-dire entre les polythéistes, entre les associâtres et leurs idoles, Allah aura ouvert un abîme, un rempart, un obstacle qui les sépare et les distingue entre eux. Ce jour-là, l'animosité des associatres et des polythéistes pour leur fausse divinité se manifestera. Elle se manifestera par leur rejet et leur désaveu, comme Allah tabaraka ta'ala a dit dans le sens: lorsque les hommes seront rassemblés, ils deviendront leurs ennemis et rejetteront leur adoration. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et dans le verset 53, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole: ceux qui se rendaient coupables de mécréance verront alors l'enfer, convaincus d'y être précipités sans trouver aucun moyen d'y échapper. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, lorsque la reddition des comptes aura lieu et que chaque groupe se sera distingué par ses œuvres et que la décision du châtiment se sera imposée contre les mécréants qui verront de leurs propres yeux la Gehenne avant d'y être précipités, ces derniers se retrouveront dans une grande anxiété, sachant qu'ils vont y être précipités sans trouver aucun moyen d'y échapper. aucune alternative pour échapper à leur sort, ni d'intercesseur sans la permission d'Allah. Il y a là comme mise en garde et avertissement ce qui est de nature à effrayer les cœurs et les âmes vivants.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.